propose un petit enregistrement qui a pour but de vous introduire au livre de la Genèse. Alors, en voici la première partie, donc l'introduction à la Genèse proprement dit. Ce livre est le livre des commencements, ou recommencements, à plus d'un titre, d'où le nom Genèse, qui veut dire en grec « commencement ». Tout d'abord, il est le livre du commencement ou de la création du monde, chapitres 1 et 2. Ensuite, il nous raconte le commencement ou la renaissance d'une humanité nouvelle et purifiée, chapitres 6 à 10. Ce livre est aussi le récit du commencement du monde des nations, des cultures et des langues différentes, chapitre 11. Et, enfin, il nous relate le commencement du peuple d'Israël. La Genèse, c'est aussi le livre des chutes, la chute originelle, du paradis à ce monde mortel, chapitre 3. La chute d'une humanité encore proche de Dieu, à une race humaine tellement mauvaise qu'elle justifiera le déluge, chapitre 6 à 10. Chute encore d'une humanité unie sous une même langue à une humanité divisée, devenue incapable de se comprendre, chapitre 11. Enfin, c'est aussi les multiples petites chutes des patriarches, Abraham et Sarah avec le Pharaon, chapitre 12, l'interprétation de la promesse de Dieu par Sarah et son fruit dévié, qui est Ismaël, chapitre 16. Et que dire de Jacob de ses nombreuses tromperies, envers son frère Ésaü notamment, chapitre 27. Sans oublier Joseph trahi par ses frères et la migration du futur Israël de la terre promise vers l'Égypte, de la promesse vers les biens de ce monde, chapitre 37 plus chapitre 46. Pour un résumé plus détaillé de tous ces événements, je vous conseille d'aller voir le résumé des personnages sur la page que vous trouverez donc par l'intermédiaire de la page d'accueil au résumé biblique, dont cette version est la version audio, cet enregistrement plutôt, ou alors on abordera ça petit à petit dans plusieurs enregistrements. Dans cet enregistrement, nous aborderons d'ailleurs Adam et Ève et Noé et avant Abel et Caïn. Donc, toutes ces chutes amèneront des recommencements, comme il a été dit plus haut. Recommencement devenu possible grâce à la patience et à la miséricorde de Dieu. C'est aussi cela la Genèse, le livre des recommencements, des nouveaux départs rendus possibles par la miséricorde de Dieu. Autre précision, avant de terminer cette introduction proprement dite, le lieu où se déroule la Genèse est principalement le Moyen et Proche-Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie, l'Iran et l'Irak actuels, Israël, Jordanie, Liban et l'Égypte. Je veux dire par là que l'action se déroule en Mésopotamie, qui correspond à l'Iran et l'Irak actuel, et se déroule ensuite en Israël, en Jordanie, au Liban et en Égypte. Bien sûr, Israël, Jordanie, Liban et l'Égypte ne font pas partie de la Mésopotamie. Quant à l'époque, elle couvre une période allant de 2000 à peu près avant Jésus-Christ à 1650 avant Jésus-Christ, pour ce qui est bien sûr des récits concernant Abraham et ses descendants. Les 11 premiers chapitres ne pouvant pas être datés avec certitude. Je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, d'aborder la composition du livre. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune indication dans ce livre quant à son auteur. La tradition attribuait la rédaction à Moïse. Avec l'approche historico-critique, on a mis à jour le fait que la Genèse était en fait composée de plusieurs courants issus de la tradition juive. On désigne généralement ces courants du nom dont ils se servaient pour appeler Dieu dans la Genèse. Ainsi, nous avons le courant J ou Yaviste de Yahvé, le courant E ou Éloïste de Elohim, le courant P ou sacerdotal, parce que marqué par la caste des prêtres de Jérusalem, et enfin le courant D ou Deutéronomiste, parce qu'on attribue à ce courant la rédaction du Deutéronome. Cette approche a indéniablement contribué à une meilleure compréhension des mécanismes qui ont conduit à la formation de la Genèse. Toutefois, elle pose autant de problèmes qu'elle prétend en résoudre, notamment par rapport aux prétendus anachronismes de la Genèse. C'est pourquoi, aujourd'hui, les exégètes s'intéressent généralement plus au récit lui-même qu'à ses sources. En résumé, on peut dire que la période finale de la rédaction de ce livre est intervenu au premier temps de la monarchie israélienne, c'est-à-dire entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ, et peut-être même après l'exil, c'est-à-dire après 537 avant Jésus-Christ. Bon, ce qui ne veut pas dire, de toute façon, que les récits eux-mêmes n'aient pas été bien antérieurs. On se souviendra avec bénéfice que pendant très longtemps, les Hébreux ont été un peuple de nomades, fortement imprégnés de traditions orales. L'ancien hébreu ne contenait aucune voyelle. Les consonnes n'étaient vues que comme des pense-bêtes lors des récitations orales. Elles servaient à mieux mémoriser les récits. Il n'y avait donc pas besoin d'écrire les voyelles dans une civilisation qui se transmettait ses histoires par oral. L'application de tout ceci est lourde de conséquences. Cela veut dire tout simplement que les récits ont été mis par écrit sous leur forme définitive à la royauté, et que ces récits qui ont été donc mis par écrit définitivement à la royauté ou même après l'exil remontent probablement à des siècles via la transmission orale. Dans ces conditions, connaître l'époque de rédaction n'a qu'une importance toute relative. On comprend ainsi mieux que malgré les différents courants qui ont participé à la mise par écrit de la Genèse, ce livre possède une unité interne riche et remarquable. Maintenant, pour vous montrer l'unité de ce livre, je vous propose la troisième partie qui est le plan du livre. Alors, le livre se divise, si vous voulez, en deux grandes parties. La première partie, c'est de la création à la tour de Babel. En gros, les 11 premiers chapitres de la Genèse. D'abord, vous avez la création par Dieu du monde et de ce qui y vit, chapitres 1 et 2. Ensuite, la rébellion du genre humain et ses tragiques conséquences, chapitre 3. Après, d'Adam à Noé, avec notamment le déluge, chapitres 4 à 10, et enfin la tour de Babel, ou la dispersion des hommes sur la terre, chapitre 11. Et puis, vous avez la deuxième partie, les patriarches, l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou la nouvelle famille de Dieu, si vous voulez, chapitres 12 à 36. Et enfin, l'histoire de Joseph et ses frères, l'installation en Égypte des Hébreux, chapitres 37 à 50. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, le message. La Genèse montre Dieu en action. Il est le créateur de notre monde, ainsi que de l'humanité entière. Ce qu'il a fait était bon, mais il donna aux hommes le libre choix. Ces derniers choisirent la désobéissance. La conséquence fut notre éloignement de Dieu. Il nous était devenu, si vous voulez, comme étranger, ce Dieu qui nous aime tant et qui nous a créés. La souffrance et la mort firent leur entrée dans ce monde, en conséquence donc de ce refus, de cet éloignement de Dieu. En fait, on peut rejeter Dieu, mais c'est une folie destructrice. Quiconque se soustrait à l'autorité divine appelle sur lui le mal, le chaos, la ruine et la douleur. Dorénavant, la tragédie du péché est une constante de la vie humaine. Mais Dieu n'a pas laissé tomber. Il nous offrit un nouveau départ, donc vous vous souvenez des recommencements, avec Noé. Ensuite, il choisit Abraham et ses descendants. Et ce fut le point de départ du merveilleux plan qu'il avait préparé, donc que Dieu avait préparé, pour le salut de l'humanité, dont l'aboutissement définitif serait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La leçon que nous pouvons en tirer au quotidien, c'est que Dieu agit dans l'histoire avec un grand H et dans notre histoire personnelle. Il le fait maintenant, au cœur des problèmes, des luttes et des incertitudes de la vie. Sa présence est certaine. Les patriarches le savaient. La Genèse enseigne qu'il est possible de partager leur assurance. Maintenant, la cinquième partie qui va couvrir plusieurs enregistrements, c'est le résumé de la Genèse au travers des personnages. Ça me semblait la meilleure façon de résumer ce livre. Donc, ce type de résumé, donc, comme je viens de le dire, me semble le plus adapté à ce livre. La Genèse est en effet la plupart du temps articulée autour de personnages clés. Ceux-ci apparaissent par ordre chronologique dans les résumés. Donc, commençons bien sûr par Adam et Ève, chapitres 1 et 3. D'abord, l'histoire. Adam, qui veut dire terre rouge ou terreux, est selon la Genèse le premier homme créé de la main même de Dieu. Il n'est donc pas né d'une femme. Il engendra le genre humain tout entier, mais en succombant à la tentation, il le conduisit à la déchéance. Le livre de la Genèse nous livre deux récits de la création d'Adam. Dans le premier, l'homme fut créé après tout le reste. Dans l'autre, il fut créé avant que Dieu ne plantât le jardin d'Éden et qu'il ne le peuplât d'animaux. Adam, d'ailleurs, se vit confier la tâche de donner un nom aux animaux. Adam et Ève furent libres de jouir de tout ce qui se trouvait dans le jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon la mort s'abattrait sur eux. Mais le serpent, Satan en fait, dit à Ève que si elle en goûtait, elle ne mourrait certainement pas. Bien au contraire, elle obtiendrait la connaissance pleine et entière comme Dieu. Ève succomba et entraîna Adam dans sa chute. Quand le soir arriva, Dieu vint voir Adam qui se cacha honteux de sa nudité. Dieu lui demanda comment il savait qu'il était nu. Puis il lui fit comprendre qu'il savait qu'il avait mangé le fruit défendu. Sur ce, Adam s'empressa d'accuser Ève, qui elle-même accusa le serpent. Pour empêcher Adam et Ève de manger également du fruit de l'arbre de vie et de devenir ainsi immortels, Dieu les chassa de l'Éden et condamna l'homme à un dur labeur pour gagner sa vie. L'homme en réalité était mis en face de son choix et de ses conséquences, mener sa vie en se passant de la présence de Dieu. Quelques précisions sur Ève. Ce fut donc la première femme créée par Dieu, après qu'il avait plongé Adam dans un profond sommeil. Elle fut tirée de la côte d'Adam. Le nom Ève lui fut donné par Adam, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Hava, en hébreu, veut dire vie, qui donne la vie. Bon, passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre consacré à Adam et Ève, en abordant la symbolique d'Adam, notamment dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Adam désigne quelquefois l'homme créé par Dieu, plus communément l'ensemble de la collectivité humaine. Il est l'homme en qui tout homme doit se reconnaître, appelé à l'intimité avec Dieu en dépit de son péché. Dans le Nouveau Testament, l'intérêt se porte sur Adam face à Jésus-Christ. Semblables en ce qu'ils ont tous deux une fonction universelle, ils diffèrent de par leur origine terrestre ou céleste, ainsi que par leur œuvre de mort ou de vie. Avec le langage de son époque, saint Paul parle d'Adam comme d'une figure, une préfiguration du Christ. Abordons maintenant la comparaison entre la Genèse et d'autres récits de création, des civilisations environnantes, si vous voulez, notamment la civilisation sumérienne, qui a beaucoup influencé les 11 premiers chapitres de la Genèse, disons dans l'aspect pseudo-scientifique que les gens pensaient avoir à l'époque, mais non pas dans la morale, comme vous allez le voir. Si vous voulez d'ailleurs plus de renseignements sur cette comparaison entre les récits sumériens et babyloniens et les récits bibliques, je vous conseille d'écouter un enregistrement qui sera fait prochainement, et vous trouverez la version écrite d'ailleurs, si vous cliquez dans l'espace biblique, civilisation des patriarches, sumériens, et après il y a la religion sumérienne et la Bible. Donc, comparaison entre la Genèse et d'autres récits de création, là vous n'avez qu'un résumé succinct. La première chose qui saute aux yeux, quand on se lance dans une telle comparaison, c'est la différence de style et de grandeur. En effet, par contraste, les récits sumériens et babyloniens sont crus et nettement polythéistes. Crus dans le sens, ils sont vulgaires, si vous voulez. Sont crus et nettement polythéistes. Mais rentrons un peu dans les détails tout de même. La Genèse est unique en ce sens qu'elle est le seul récit ancien dans la région qui propose une présentation cohérente de la création en tant que telle. Par opposition, les autres récits, donc des civilisations avoisinantes, se caractérisent par des histoires qui concernent davantage l'origine des dieux que celle de l'univers. Aussi se focalisent-ils sur la naissance de tel ou tel dieu, l'organisation de l'univers, la création de l'homme et l'établissement de la civilisation en rapport avec ces dieux. Ces récits sont résolument marqués par le polythéisme et les luttes d'influence entre dieux, ce qui ne manque pas de contraster avec la retenue et la dignité du monothéisme du récit biblique. Par exemple, le plus connu des récits babylo-sumériens met en scène le dieu Marduk tuant Tiamat afin d'utiliser ses deux moitiés dans la création du ciel et de la terre. Pour libérer les dieux de leur corvée, il créa l'humanité à partir de l'argile. Ça, c'est le point commun que c'est biblique. C'est juste que Adam ait aussi fait à partir de l'argile. Et il créa donc l'humanité donc à partir de l'argile, point commun avec la Bible, et du sang du dieu rebelle Kingu, ce qui est totalement différent du récit biblique. Maintenant, si je me permets, abordons, entre guillemets bien sûr, l'historicité d'Adam. Il n'est évidemment pas question ici de prouver de quelque manière que ce soit l'historité, pardon, il n'est évidemment pas question ici de prouver de quelque manière que ce soit l'historicité d'Adam ou d'Ève en tant que tel. Ce serait sans nul doute ridicule. Mais il s'agit plutôt de voir ce que ce mythe du jardin d'Éden et d'Adam cache dans l'inconscient collectif. Ainsi, quand on se penche sur les grands archétypes universels chez les aborigènes d'Australie, les Amérindiens des plaines, les Esquimaux du Grand Nord canadien, les Bantous d'Afrique orientale ou encore les peuples du Sahel, on est frappé de voir que tout nous ramène à la même matrice, celle des ancêtres communs de l'humanité, obligés de quitter leur jardin d'Éden, entre guillemets, et de partir en exode jusque dans les confins ou les coins les plus reculés de la planète. À partir de là, il n'est pas idiot de penser que les mythes des origines, dont le plus célèbre est précisément celui de la Genèse, sont en fait la mémoire d'une période beaucoup plus reculée, qui pourrait bien remonter jusqu'à au moins moins 50 000 ans. À cette époque, les Homo sapiens vivaient concentrés, pense-t-on, dans la vallée du Rift africain, avant leur grande dispersion qui date d'à peu près la même période. L'homme quitta alors cette région d'origine luxuriante, riche en fruits et en animaux de toutes espèces, ce qui expliquerait facilement qu'elle fut par la suite, donc cette origine, idéalisée, un vrai petit paradis en quelque sorte. D'autant que certaines des régions vers lesquelles les hommes d'alors migrèrent se révélèrent beaucoup moins hospitalières. Cette curiosité humaine, cette soif de bouger, d'inconnu ou plutôt de découverte, d'aucuns diront de connaissance à tout va, le fruit défendu, on pourrait se poser la question. Donc, cette curiosité humaine, cette soif, etc., devait conduire l'homme à coloniser la terre entière. Abordons maintenant les personnages de Caïn et Abel. D'abord, l'histoire. Abel, qui veut dire vanité ou pré, le pré, donc, hein, avec les arbres, etc., était le second fils d'Adam et Ève. C'était un berger, contrairement à son frère qui cultivait le sol. Il fut assassiné par son frère par jalousie, en raison de ses œuvres que Dieu tenait pour agréables. Ce fut le premier meurtre de l'histoire. Abel est mort sans laisser de descendance. Caïn, qui veut dire acquisition, était le premier fils d'Adam et Ève. Il était cultivateur. Il commit le premier meurtre en assassinant son frère. Alors qu'il était questionné par Dieu pour savoir où se trouvait Abel, il prétendit ne pas savoir. Suis-je le gardien de mon frère? Répondit-il. Dieu maudit Caïn et le condamna à un travail pénible et stérile ainsi qu'à l'errance. Mais il lui mit une marque sur le front afin que personne n'osât s'approcher de lui pour le tuer. Caïn s'enfuit au pays de Nod, à l'est d'Éden, où sa femme lui donna un fils, Hénoc. Passons maintenant à la symbolique de l'histoire de Caïn et Abel, notamment dans le Nouveau Testament. Abel est une victime hautement symbolique. Il est le type du juste persécuté. Et en ce sens, il est une figure du Christ. Son sang est éloquent auprès de Dieu, mais celui de Jésus l'est plus encore, confère Hébreux chapitre 11, verset 4 et chapitre 12, verset 24. Quant à Caïn, par son meurtre, il dévoile la haine qui, dès l'origine, habite le cœur de l'homme. Il est le type du méchant, celui qui hait le juste son frère. Abordons maintenant le mythe des deux frères rivaux dans d'autres civilisations. Ce mythe des deux frères rivaux est plus répandu qu'on ne le croit. Très souvent, l'un des deux frères, pas nécessairement le meilleur, tue l'autre et devient par là même la souche de la lignée postérieure. Il en va ainsi des deux jumeaux primordiaux des mythes des populations sibériennes et des tribus amérindiennes, pour les frères Shun et Yao de la mythologie chinoise, et enfin pour les fameux Romulus et Rémus dans le mythe de la fondation de Rome. Alors maintenant, je vous propose, après ce court chapitre dédié à Caïn et Abel, d'aborder la fameuse histoire de Noé, donc que vous trouverez au chapitre 6 et 9. Et pour Caïn et Abel, j'ai oublié de vous le dire, c'était le chapitre 4. Donc, d'abord l'histoire. Un petit résumé donc de l'histoire qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 6 et 9. Noé était un juste qui gagna la faveur de Dieu à une époque où ce dernier regretta d'avoir jamais créé l'homme. En effet, l'homme avait sombré dans une décadence morale telle que Dieu se résolut à le supprimer de la surface de la terre par un déluge. Mais Dieu avertit Noé de cette destruction imminente et lui ordonna de construire une arche. Dans l'arche, Noé devait prendre sa femme et ses fils Sem, Cam et Josaphat, ou Jophet, ainsi que leurs épouses. Dieu lui demanda aussi de prendre un couple de chaque créature vivante sans oublier la nourriture. Il se mit alors à pleuvoir pendant 40 jours à 40 nuits, et les eaux finirent même par recouvrir les plus hautes montagnes. L'arche navigua sur les flots, et toutes les créatures qui ne se trouvaient pas à l'intérieur de l'arche périr. Après que 150 jours eurent passé, Dieu envoya un vent et le niveau des eaux commença à baisser. Noé lâcha un corbeau qui ne revint jamais. Alors il lâcha une colombe qui se vit forcée de revenir, faute de terre ferme. La seconde fois que la colombe fut envoyée, elle revint le soir avec un rameau d'olivier dans son bec. Après 7 jours, Noé lâcha de nouveau la colombe, elle ne revint pas. La terre avait donc suffisamment séché, l'arche d'ailleurs se posa sur le mont Ararat. Noé et sa famille sortirent et offrirent un sacrifice à Dieu, qui leur promit de ne plus jamais maudire la terre à cause de l'homme. Dieu s'engagea également à ne plus détruire aucune créature vivante. En signe de confirmation, il fit apparaître un arc-en-ciel. Alors, dans un deuxième temps, je vous propose d'aborder la symbolique de Noé et du déluge, notamment dans le Nouveau Testament. Dans la ligne de la tradition sacerdotale et sapientielle, le Nouveau Testament voit en Noé le type de l'homme juste et vigilant qui échappe au châtiment imminent et bénéficie du salut. Confère Matthieu 24, versets 37 à 39, 1er épître de Pierre, chapitre 3, verset 20, 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Quant au déluge, c'est le type du jugement qui surprend les insouciants mais épargne le juste. C'est également une préfiguration du salut par le baptême de l'eau. Confère Matthieu 24, chapitre 38, Matthieu chapitre 24, pardon, verset 38 et suivant. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 6. Maintenant, je vais vous proposer donc une comparaison entre la Genèse et d'autres récits du déluge. Là aussi, je vous conseille d'aller voir la page que je vous ai indiquée tout à l'heure, qui fera l'objet d'un enregistrement qui est beaucoup plus détaillé, où l'on compare les récits du déluge babylo-sumérien et le récit de la Genèse. Vous verrez que les différences sont énormes, malgré les points communs que l'on peut voir en surface. Mais ici, voilà un petit résumé qui vous aidera. Donc, on a découvert d'autres récits de déluge dans d'anciennes civilisations du Proche-Orient. Ainsi, une tablette sumérienne trouvée à Nippur, dans l'ancienne Babylonie du Sud, fut écrite vers 1600 avant Jésus-Christ, mais l'histoire qui est racontée était probablement connue en Mésopotamie bien avant. Alors, pareil, les Sumériens, ça fera l'objet d'enregistrement, mais vous pouvez déjà trouver la version écrite dans récit biblique, enfin espace biblique, pardon, après civilisation des patriarches, et vous cliquez sur Sumérien. Disons, c'est la civilisation la plus ancienne que l'on connaisse qui a fait rentrer le monde dans l'histoire. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé l'écriture. Ils vivaient dans l'Irak actuel. On connaît beaucoup plus de choses sur les Égyptiens, mais il faut savoir que les Sumériens sont bien plus anciens. Et ils restent par beaucoup de côtés un mystère, mais on sait qu'ils ont inventé l'écriture, et la roue notamment, et que les récits bibliques des 11 premiers chapitres de la Genèse sont fortement marqués par la connaissance, entre guillemets, que les Sumériens avaient du monde, mais pas par la morale des Sumériens, comme les comparaisons que l'on va faire vont vous montrer. Et les Sumériens, donc, ont notamment un récit du déluge qui a probablement influencé la Genèse, Mais comme vous allez voir, il y a des différences tout à fait notables. C'est aussi les Sumériens qui ont probablement inventé, entre guillemets, le concept de roi, etc. Mais comme je vous dis, on connaît peu de choses sur eux en comparaison de l'Égypte, mais ça vaut le coup de vraiment les étudier, d'autant plus que Abram vient d'Ur en Chaldée, et la Chaldée est un autre nom pour justement la Babylonie, d'où sont originaires les Sumériens. Il vient d'Ur, d'ailleurs, qui est une grande ville sumérienne. Donc Abram était sumérien au départ. Donc, abordons cette comparaison entre la Genèse et d'autres récits du déluge. Donc, hein. Comme je disais, on a retrouvé une tablette sumérienne à Nippur, dans l'ancienne Babylonie du Sud, et on sait qu'elle fut écrite vers 1600 avant Jésus-Christ, mais l'histoire qui est racontée donc, sur cette tablette était probablement connue en Mésopotamie bien avant. On peut en déduire que l'idée d'un déluge dévastateur faisait bien partie de la tradition historique et littéraire sumérienne. Prenons par exemple la célèbre version babylonienne du déluge, extraite de l'épopée de Gilgamesh, qui fut elle-même très largement influencée par des récits d'épopées akkadiens. Les akkadiens sont postérieurs aux sumériens, mais malgré tout, l'épopée de Gilgamesh donc, est un roi mythique de la région de Sumer, du peuple sumérien, et qui a influencé les akkadiens, et en retour, si vous voulez, la version akkadienne a réinfluencé la version plus tardive, donc on a retrouvé vers 1600 avant Jésus-Christ à Nippur, sur la tablette, la version sumérienne, qui à son tour donc a été influencée par l'adaptation akkadienne, qui bien sûr a été attirée sous l'origine de la version antique, voire préhistorique, orale de la version sumérienne. Donc, cette épopée de Gilgamesh, elle raconte comment Utnapishtim reçut l'immortalité après avoir survécu au déluge. Son bateau s'échoua sur le mont Nézir, au nord-ouest de la Perse, après quoi lui aussi lâcha des oiseaux pour savoir quand débarquer. Ici, comme dans le récit de la création donc biblique, l'auteur, enfin pardon, je veux dire ici donc comme dans le récit, si, bien sûr, comme dans le récit de la création biblique, l'auteur biblique s'inspire donc clairement pour les faits entre guillemets de ce qu'il croyait être vrai à l'époque sur le plan historique. Donc, hein, comme j'ai bafouillé, je répète. Si vous voulez, donc, hein, c'est très typique des auteurs bibliques de la Genèse. Ils avaient une connaissance des faits qu'ils croyaient être vrais pour l'époque, qui leur étaient largement, comment dire, parvenus par les épopées akkadiennes et sumériennes. Donc, de ce qu'ils croyaient être vrai pour ce qui est du plan historique, pour ce qui est du plan historique. C'est un peu comme si nous maintenant on écrivait un récit de la création en mettant Dieu en action, etc., et avec un message moral, mais on parlait du Big Bang, etc., parce que c'est notre connaissance actuelle du monde. Eh bien, c'est ce que ont fait les auteurs des récits bibliques de la création et du déluge. Mais en revanche, la Bible se distingue en adoptant résolument un ton monothéiste. Il n'y est pas question de mortel déifié ou immortalisé, mais d'un juste obéissant à un Dieu créateur et transcendant. C'est une constante des comparaisons Bible-récit mythologique. En fait, la Bible se distingue toujours dans sa réinterprétation des événements par la haute lumière morale de son monothéisme. Et cette idée est creusée donc dans la page que je vous ai indiquée, que vous trouverez sur la page d'accueil et qui fera l'objet d'un enregistrement. Abordons maintenant, en dernier chapitre, le déluge et la recherche archéologique. Les archéologues ont découvert des preuves sérieuses attestant qu'il y eut bien des déluges dans le sud de la Mésopotamie. Mais on ne peut vraisemblablement pas les relier avec le déluge biblique. Le plus ancien de ces déluges mésopotamiens à Ur remonte à 4000 avant Jésus-Christ. Je veux dire, beaucoup de gens, notamment dans la méthode historico-critique, vont vous dire que ce sont ces petits déluges, pour ceux qui les ont vécus, ce n'était pas petit, mais ces déluges localisés. Ils vont vous dire que, effectivement, ça a probablement influencé un récit de déluge universel. Mais le problème, c'est que la Bible parle d'un déluge universel. Alors, est-ce qu'on peut, effectivement, voir des traces d'un déluge universel? Ou est-ce que, comme beaucoup le pensent, le récit biblique n'est qu'un grossissement épique de ces déluges localisés? Eh bien, le seul phénomène géographique planétaire que l'on peut raisonnablement rapproché du déluge universel tel qu'il est présenté dans la Bible, est en fait la déglaciation massive des grands glaciers du Quaternaire, qui s'opéra il y a plus de 12 000 ans, à la fin du Pléistocène. Alors le Pléistocène, c'est une période qui s'étend sur environ 990 000 ans, qui débute la première époque du Quaternaire. Elle se caractérise par une glaciation intensive de l'hémisphère nord, ainsi que par une évolution significative de l'homme. Donc, elle débute, je vous l'ai dit, très tôt, vers 990 000 ans avant Jésus-Christ, enfin, il y a 990 000 ans plutôt, mais elle couvre une grande, grande période, puisqu'elle se termine à peu près vers 12 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, donc, à la fin du Pléistocène, le niveau des mers monta, mais globalement, sur la, comment dire, au niveau de la planète, d'environ 120 mètres. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille l'excellent livre d'Emmanuel Anati, un archéologue, qui s'appelle « La religion des origines ». Bon, il est évident que le niveau de la mer montant globalement de 120 mètres, il y a dû en avoir des régions qui ont été inondées. Donc, on peut comprendre ces différents déluges qui se situent planétairement dans beaucoup de civilisations. Quoi qu'il en soit, un dogmatisme sur un déluge universel est hors de propos si l'on se base sur les fondements textuels bibliques. Puisqu'en hébreu, les mots utilisés en référence au déluge pourraient tout aussi bien s'appliquer à une catastrophe terrible, certes, mais localisée. Donc vous voyez, ça peut être universel, mais la méthode historico-critique, en le faisant localiser, n'a pas forcément tort. Je voudrais aussi rajouter une précision en parlant d'un déluge localisé, mais alors celui-là, vraiment, qui a des proportions, on va dire, bibliques, il y a aussi une page que vous trouverez dans la version écrite qui correspond à cet enregistrement. Il suffira de cliquer dessus. Je pense en faire un enregistrement. C'est le fameux déluge, de la mer Noire. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, bon, en quelques mots, vers la déglaciation, à peu près 7500 ans, il y a 7500 ans. La mer Noire, qui était un lac, est devenue une mer parce que les glaciers sont passés par-dessus le détroit du Bosphore, enfin je veux dire, on fait monter la Méditerranée de telle manière, en fondant, que la Méditerranée, qui s'appelle la mer de Marmara, à proximité du détroit du Bosphore, donc vers la Turquie, tout simplement, l'eau de mer a passé et a même rompu le détroit du Bosphore, et vous imaginez la quantité d'eau qui s'est déversée dans un lac. Deux scientifiques américains l'ont prouvé, maintenant c'est reconnu, il y a eu même des articles du National Geographic là-dessus, des coquillages d'eau de mer, d'eau douce, qui sont datés de périodes plus anciennes qu'il y a 7500 ans, et à partir de 7500 ans, ce sont des coquillages d'eau de mer, c'est notamment une des preuves, etc. Et il y avait des gens à l'époque qui vivaient au bord, et pendant au moins un ou deux ans, l'eau de la mer a monté régulièrement à raison de 1 ou 2 km par jour. Et vous imaginez ceux qui étaient dans les montagnes, donc entourant la mer Noire, le spectacle qu'ils ont dû voir. Hein, les chutes du Niagara, c'est rien à côté. Bon, enfin, tout ça s'est développé sur la page que vous pouvez cliquer dans la version écrite, et qui fera, je l'espère, l'objet d'un enregistrement. Voilà, je vais conclure cette première partie consacrée à la Genèse, de ce premier enregistrement. Nous verrons ensuite d'autres personnages, disons que l'on peut dater avec plus de précision, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph notamment, voilà les patriarches. Voilà, donc fin de l'enregistrement.